Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, c'était une promesse de l'État français. Un camp d'accueil pour migrants vient d'ouvrir à Calais, au cœur de la jungle où vivent entre 4500 et 5000 personnes. En août dernier, Manuel Valls avait annoncé la création d'un tel lieu d'hébergement d'une capacité de 1500 lits. Une première depuis la fermeture du camp de Sangatte en 2002. Les premières familles sont aujourd'hui installées dans des containers aménagés. Mais chez les migrants, comme chez les habitants de Calais, ce camp ne fait pas l'unanimité. C'est un reportage d'Alice Posicki.
À l'arrivée des premières familles, les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Il faut encore installer les toitures des derniers containers. Avec sa femme et ses 6 enfants, Mohamed Chafi découvre son nouvel hébergement. La famille, venue d'Afghanistan, dormait depuis 4 mois dehors dans la jungle.
Dans la jungle, il fait froid, c'est humide à cause de toute la pluie. Ici, on sera à l'abri, on aura chaud, c'est vraiment bien.
À l'intérieur des 120 containers, des lits superposés, des prises électriques, une armoire et surtout du chauffage. Un confort minimum, mais suffisant, estime Stéphane Duval de l'association La Vie Active. Il est chargé de la gestion du camp.
Pour moi, quand on voit l'aménagement du container tel qu'il est aujourd'hui, effectivement, ça peut paraître spartiate, mais quand on voit ce qui se passe de l'autre côté, c'est calamiteux, quoi.
Les mains dans les poches, Tangouste, une jeune femme érythréenne, se dirige vers la sortie du centre. Elle est venue visiter l'intérieur d'un container et préfère retourner dans la jungle.
Je ne veux pas rester dans ce camp. Il n'y a pas de différence entre ici et la jungle. Ce n'est même pas plus confortable. Je veux rester dans la jungle. Je ne veux pas venir ici.
I want to stay in jungle. I don't want to come here.
Le centre d'accueil provisoire est séparé de la jungle par des barrières et un grand portail. De l'autre côté des grillages se trouve la tente d'Ibrahim et de Saher, deux jeunes Syriens qui souhaitent rejoindre l'Angleterre. Saher verse de l'eau dans une casserole, il prépare du chocolat chaud. Depuis son arrivée dans la jungle il y a 3 mois, il a vu les engins de chantier terrasser le sol, creuser des tranchées, il a vu les containers arriver, pas assez selon lui.
Ils construisent un camp pour 1500 personnes, mais dans la jungle, nous sommes 5000, c'est un problème.
Assis à côté de Saher, Ibrahim ne sait pas s'il fera partie des personnes hébergées.
On ne sait pas qui viendra vivre dans ce nouveau camp, qui ils décideront de transférer ici. Personne n'est venu nous donner de détails, personne n'est venu enregistrer notre nom pour nous dire que le camp était prêt, personne.
Tout comme Saher, Ibrahim vit dans la jungle de Calais depuis 3 mois, avec pour seul refuge une tente dont une partie de la toile est déchirée. Après avoir quitté son pays, pris la route à travers l'Europe, Ibrahim est aujourd'hui coincé aux portes de l'Angleterre. Les conditions dans lesquelles il vit aujourd'hui le mettent en colère.
En Syrie, nous étions en train de mourir, mais même pendant la guerre, nous ne vivions pas comme ici, dans la jungle. Nous sommes au cœur de l'Europe, nous sommes en 2016 et nous vivons dans une jungle. Ici, on souffre et on meurt à petit feu. Les Syriens qui vivent ici dans la jungle se disent qu'il n'y a pas de différence entre le gouvernement français, le gouvernement britannique et le régime syrien. Ils sont tous responsables de notre souffrance.
Dans une rue passante qui relie la jungle au centre-ville de Calais, cette habitante sort d'un bureau de tabac. Elle se dit soulagée qu'une partie des exilés ait enfin un endroit où dormir, mais elle confie être aussi inquiète.
C'est une porte ouverte et il y en aura d'autres et d'autres et d'autres et puis ça ne va jamais s'arrêter, quoi. Cette situation me rappelle la situation qu'il y a eu quand j'étais Sangatte. Une tente Sangatte, c'était la même chose et là, c'est reparti pour la même chose et j'aimerais bien que ça s'arrête.
Sangatte, c'est cet ancien centre d'hébergement pour migrants installé dans la ville du même nom, à quelques kilomètres de Calais. Prévu pour 800 personnes, la fréquentation du camp avait explosé. L'endroit était devenu complètement insalubre.
Les commerçants, bah ça y est, c'était fini, il n'y a plus personne qui allait chez eux. C'était banni ce secteur. Donc voilà quoi, c'était la crainte. On n'aurait pas osé aller à la plage de Sangatte, ni à Blériot, ni dans ce coin.
En 2002, l'État a finalement décidé de fermer le camp et près de 15 ans plus tard, face à la crainte de voir le nouveau centre d'accueil suivre les traces du fantôme de Sangatte, Fabienne Bussio, préfète du Pas-de-Calais, se veut rassurante.
J'aime pas ce genre de comparaison avec Sangatte parce que Sangatte n'est pas forcément un bon souvenir, même si Sangatte devait être ouvert et Sangatte devait être fermé. Dans quelques mois, j'espère qu'on ne parlera pas de nouveau Sangatte et je crois que c'est dans le temps qu'on gagnera ce combat et qu'on parlera d'un centre d'accueil provisoire qui fonctionne et où tout se passe bien et je crois qu'on y arrivera.
Le centre d'accueil provisoire de Calais accueille en priorité les personnes vulnérables. Une fois à l'abri, au chaud, l'État espère convaincre ces migrants d'abandonner leur projet de passer en Angleterre pour demander l'asile en France.
Une élection présidentielle attendue et différente au Portugal. D'abord parce que le scrutin pourrait donner lieu à un second tour, alors que traditionnellement, le candidat est élu dès le premier avec une confortable majorité. Et surtout, cette fois-ci, on trouve deux femmes candidates. Pour en parler avec nous, Marilyn Darcy à Lisbonne. Bonjour Marilyn.
Bonjour Laurent.
Alors, tout d'abord, les électeurs d'extrême-gauche pourront choisir de voter pour Marisa Matias du Bloc de Gauche.
Marisa a quelque chose de magique. Nous, les gens normaux, nous nous promenons, elle avance. Ce compliment est en fait un hommage politique à la candidate du Bloc de Gauche formulé par Pablo Iglesias, le leader du Podemos espagnol, idéologiquement proche du parti portugais. Marisa Matias, 40 ans, eurodéputée pour son parti depuis 2009, a été réélue en 2014. Marisa est originaire d'un petit village du centre du Portugal, issue d'une famille très modeste. Elle a dû petite travailler au champ et en a gardé une humilité qui la préserve de l'arrogance. Elle finit par entrer à l'université de Coimbra et devient docteur en sociologie spécialisée dans la santé et l'environnement. Bien que militante du Bloc de Gauche depuis son origine en 2005, Marisa se veut indépendante, ce qui lui permet de tenir un discours rassurant sur sa capacité à garantir le bon fonctionnement des institutions comme l'exige la fonction présidentielle. Marisa Matias appartient à son temps avec son look branché, ses longs cheveux bruns qu'elle laisse flotter sur ses épaules. Sa voix de rocaille subjugue l'auditoire. Elle défend le renouveau politique qu'elle incarne et revendique.
Alors, tout ou presque la sépare de l'autre candidate, la socialiste Maria de Belém Roseira.
Robe au col sage, collier de perles, petite veste rose façon Chanel et brushing impeccable, elle est la candidate du Parti Socialiste, au service de ce parti depuis 40 ans, comme elle aime à le répéter. Maria de Belém a été ministre de la Santé, mais aussi de l'Égalité, députée, chargée de commissions difficiles et même présidente de son parti. Petite femme menue à la voix fluette, elle prône une politique en douceur, basée sur le dialogue, y incarne un courant centriste que certains qualifient de consensus mou. Née en 1949 à Porto, elle a grandi dans une famille de femmes à la forte personnalité. Elle aussi a étudié à l'université de Coimbra le droit. Maria de Belém Roseira se dit profondément chrétienne, proche de prélats très influents à gauche. Derrière une apparence frêle et timide se cache une femme de conviction combative, possédant un sens élevé de la justice, impliquée socialement. Les Portugais adorent se moquer de ses coiffures un peu trop volumineuses et de son look de tati bien élevé. De son côté, Maria de Belém revendique le droit d'exercer les plus hautes fonctions nationales au nom de ses convictions et du féminisme.
Marilyn Darcy à Lisbonne. C'est l'un des pays les plus pollués d'Europe, la Bosnie-Herzégovine. Des usines qui ne respectent pas les normes environnementales, un parc automobile vieillissant, du chauffage au charbon. Chaque hiver, ce cocktail rend l'air irrespirable. Les alertes au dépassement de seuil se multiplient depuis le mois de décembre. Cette pollution constitue un véritable problème de santé publique, sans pour autant que l'environnement soit une priorité du gouvernement. C'est un reportage de François Sauvestre.
À Zenica, impossible de distinguer l'horizon. La quatrième ville de Bosnie est sous un épais brouillard. En plein hiver, les cheminées domestiques ne sont pas les seules à cracher. Les six immenses fourneaux de l'usine ArcelorMittal laissent échapper une fumée noire. Les bâtiments se trouvent à 10 minutes à pied du centre-ville. Depuis 30 ans, Sefik habite un appartement qui jouxte le site de Mittal. À 63 ans, ses poumons le font souffrir.
Je vis dans cet immeuble, là, derrière. Tous les matins, quand je me réveille, il y a de la poussière partout, sur le balcon, sur les volets, sur les voitures. C'est Mittal, le responsable. Vers 2h du matin, ils ouvrent grand les cheminées et la poussière sort. Ils font ça la nuit pour que personne ne voie. Moi, j'ai des problèmes pour respirer. Beaucoup de gens souffrent de la pollution. Les hôpitaux sont pleins. Est-ce que la vie de toutes ces personnes est moins importante que 3000 emplois? Je ne dis pas que je souhaite la fermeture de l'usine. Je veux juste que Mittal respecte la loi et réduise la pollution.
Le groupe Mittal se défend et déclare installer progressivement des filtres sur ses cheminées. Face aux pressions citoyennes et écologistes, le géant de l'acier met toujours en balance ses 3000 postes et les 15 000 emplois indirects dans un pays où le chômage dépasse les 40%. Mais pour la principale ONG qui milite contre la pollution à Zenitsa, l'activité économique n'est pas incompatible avec le respect de l'environnement. Samir Lemesh est le président d'Ecoforum. Depuis 2008, il tente de récolter un maximum de preuves contre les dirigeants de l'usine.
L'essentiel de cette pollution ressort en poussière. C'est principalement du dioxyde de soufre. Le charbon utilisé pour faire tourner cette usine en contient beaucoup. Le seuil maximal pour le dioxyde de soufre dans l'air, c'est 125 microgrammes par mètre cube. En 2014, on a relevé 252 jours sur 365 où ce niveau a été dépassé. Et puis, il y a aussi une pollution organique, du benzène, du benzopyrène, des PCB, des dioxines qu'on retrouve dans la terre, dans l'eau. Nous travaillons avec une ONG tchèque qui a fait des prélèvements sur les œufs pondus par les poules. Le seul endroit à ne pas avoir été contaminé est protégé de l'usine par une colline.
L'association a porté plainte contre le groupe ArcelorMittal pour crime environnemental, une première en Bosnie. Mais Ecoforum a aussi intenté une action en justice contre le gouvernement qu'elle accuse de passivité face à un problème de santé publique. Car Zenitsa n'est pas la seule ville de Bosnie à vivre dans un brouillard permanent. Il y a Tuzla au nord, mais aussi Sarajevo, la capitale la plus polluée d'Europe selon l'Organisation mondiale de la santé. On y respire difficilement, mais pas pour les mêmes raisons. Enis Somersic est expert de la qualité de l'air à l'Agence fédérale de l'environnement.
À Sarajevo, il n'y a plus d'industrie, mais la pollution est due d'abord au trafic routier. Le parc automobile date en moyenne de 1999, 17 ans, et quand les gens vont au travail le matin, ils vont tous dans la partie la plus étroite de la ville. Il nous faudra un nouvel axe périphérique autour de Sarajevo. L'autre gros problème, c'est le chauffage domestique. Les habitants utilisent du charbon, moins cher que le gaz, et ce charbon produit ici en Bosnie est de très très mauvaise qualité.
Dans le cabinet du docteur Tofik Hadžimanović, les patients atteints de ces pathologies défilent. Pour ce spécialiste des maladies pulmonaires, c'est clair, la pollution est le facteur numéro un. Mais il n'existe aucune statistique officielle pour établir formellement ce lien entre mauvaise qualité de l'air et problèmes de santé.
Le principal souci, c'est l'argent. Il en faut pour mener ces études et le gouvernement qui devrait les engager et nous les présenter n'en a pas. Et c'est partout comme ça. Regardez, nous avons un tout nouvel appareil pour détecter les allergies, mais il manque une pièce, alors il ne marche pas. Pourtant, on en aurait bien besoin. Peut-être que si ces statistiques sur le lien entre pollution et augmentation des maladies étaient menées, les résultats seraient mauvais. Et l'État ne veut peut-être pas mettre au jour la gravité de la pollution sur la santé des gens.
L'État qui ne pointe en fait qu'un seul responsable à ces maladies, la cigarette. Certes, disent les médecins, le tabac est une sérieuse problématique. 44% des Bosniens fument. Mais la pollution est un facteur aggravant contre lequel les ONG poursuivent leur action.
Lui aussi a contribué à polluer l'air des villes en République tchèque. La Cizeta, un scooter des années 60, surnommé le cochon, en raison de son design très particulier. Il fait aujourd'hui son grand retour, mais dans une version électrique. Fini le moteur à deux temps et les démarrages laborieux au kick, Alexis Rosenzweig.
Voilà le bruit de la Cizeta originale, un bruit que la nouvelle version de ce deux roues légendaire ne fera pas puisqu'elle sera électrique et donc quasiment silencieuse. À l'image du Solex français, la Cizeta revient en grande pompe et avec des batteries, avec des options pour hipster aussi, comme une application spéciale pour la relier à son téléphone ou des enceintes en Bluetooth. Pour le reste, le design est pratiquement inchangé. Avec ses airs de Lambretta italienne, la Cizeta était et reste reconnaissable de loin avec son imposante carapace et son large garde-boue avant en forme de groin qui lui a valu ce surnom de cochon. Développée à la fin des années 50, la Cizeta a connu son heure de gloire au moment où commençait le printemps de Prague, une certaine ouverture du régime communiste après des années de plomb, et l'engin allait devenir l'un des symboles d'une certaine liberté, en tout cas d'une certaine légèreté et d'une relative modernité de ce côté-ci du rideau de fer. Difficile de faire du bon marketing avec un surnom aussi porcin, mais un Britannique passionné par la Cizeta a voulu croire coûte que coûte au renouveau de ce scooter. Le mot cochon ne sera cependant pas utilisé pour vanter le produit qu'il souhaite exporter jusqu'en France et même aux États-Unis. Les batteries viennent de Chine, le reste est fabriqué en République tchèque, certaines pièces sur imprimante 3D. Les premiers tests sur les prototypes semblent probants, avec une autonomie d'environ 100 km et une vitesse jusqu'à 90 km/h qui permettrait de prendre l'autoroute. Le prix de ce 2 roues de luxe est déjà celui d'une petite voiture. Il faudra en effet compter 10 000 euros. Sans sa petite remorque en option.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Une chronique monstre aujourd'hui.
Promise and the Monster, c'est le projet de la Suédoise Billy Lindahl qui publie aujourd'hui Feed the Fire, son troisième album sous ce nom. Depuis 2007, si vous comptez bien, ça fait un album tous les 4 ans, ce qui n'est pas beaucoup, et trahit non seulement son perfectionnisme dans la mise en son des chansons, mais aussi un certain inconfort quand il s'est agi d'écrire les textes de ce nouvel album. Billy Lindahl explique qu'elle les a conçus comme des contes faits de violence et de désespoir, certains parlent de meurtre, et la jeune femme y épouse le point de vue du meurtrier, de quoi mettre à mal un moral déjà un peu fragilisé par les tourments de sa vie personnelle. La partie du travail consacrée à l'enregistrement a semble-t-il été plus facile. Feed the Fire a été conçu à Stockholm dans le studio du musicien Love Martinsen qui a réalisé ses nouvelles chansons. À eux deux, ils jouent de tous les instruments sur ce disque très réussi et étonnamment dense et varié.
Extrait du dernier album de Promise and the Monster. Toute cette semaine, c'est Françoise Grelot qui a réalisé et mis en onde cette émission. Accent d'Europe à retrouver dès lundi 12h40, temps universel, et dès maintenant sur RFI.fr à la page émission.
De la question.